de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, voici la voix de l'Indonésie présente le journal aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements à informer entre autres. Bilan des victimes du tremblement de terre en Turquie dépasse désormais les 12 000. Union européenne qualifie la criminalité liée à la drogue de menace de terrorisme. L'Indonésie collaborera avec les pays parties prenantes pour surmonter le problème de la Birmanie. Vice-président Maruf Amin a un bureau à Papouasie pendant un mois. Police envoie du personnel humanitaire au Land. Police indonésienne envoie du personnel humanitaire en Turquie. Indonésie prend la présidence alors que l'ASEAN est à la croisée des chemins. Et président Joko Widodo a déclaré que le monde de la presse n'allait pas bien. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. Le nombre de victimes décédées à la suite du tremblement de terre qui a secoué la Turquie et la Syrie a atteint 12 000 après que les autorités turques et syriennes ont mis à jour les données sur les victimes du tremblement de terre de magnitude 7,8, selon un rapport du site internet du quotidien britannique The Guardian, surveillé aux premières heures de la matinée de jeudi sur ce nombre à environ 2 992 personnes se trouvaient en Syrie, tandis que près de 9 100 autres se trouvaient en Turquie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan lui-même a révélé que le nombre de victimes décédées dans son pays à ce jour est de 9 057 personnes. Pendant ce temps, les autorités syriennes de la protection civile ont déclaré que la plupart des victimes dans leur pays se trouvaient dans le nord-ouest de la Syrie. La Syrie connaîtrait une pénurie de sacs mortuaires et des efforts de gestion des catastrophes non coordonnés. L'Union européenne considère que la menace de la criminalité liée au réseau de drogue est la même que celle du terrorisme et qu'elle doit donc être éradiquée, a déclaré la commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson. Johansson a déclaré cela mardi 7 février lors d'une visite au port d'Anvers en Belgique. Le principal point d'entrée de la cocaïne vers l'Europe. Un record de 110 tonnes de cocaïne, soit environ 40% de toutes les saisies en Europe, ont été déjouées l'année dernière au port. Cependant, les autorités douanières locales estiment que ce montant ne représente que 10 à 15% du total de la cocaïne de contrebande. La ministre belge de l'Intérieur, Annelies Verlinden, qui a accompagné Johansson au port, a déclaré que les efforts de la police locale et des douanes seraient vains si l'Union européenne ne coopérait pas avec les pays d'origine de la drogue et les pays où vivent les trafiquants. La popularité du port d'Anvers auprès des trafiquants de drogue a accru la violence liée à la drogue en Belgique. L'Indonésie cherchera à engager les pays intéressés ainsi que les organisations internationales à soutenir la mise en œuvre du consensus en 5 points pour surmonter la crise politique en Birmanie. Le directeur général de la coopération asiane du ministère des Affaires étrangères, Siddhartho Suryodipuro, lors d'un séminaire à Jakarta, a déclaré qu'en tant que président de l'ASEAN, l'Indonésie assurera les relations avec les autres pays voisins et autres pays importants dans la résolution du problème de la Birmanie et soutenir une organisation internationale pour soutenir la mise en œuvre du consensus en 5 points. Depuis le coup d'État militaire de février 2021, les réactions de l'ASEAN et du monde à la question de la Birmanie ont été mitiguées. Pendant ce temps, l'Indonésie et la Malaisie se sont montrées préoccupées par la crise politique en Birmanie et ont appelé à l'arrêt de la violence et à encourager un dialogue pacifique. La représentante du comité directeur pour l'accélération du développement de l'autonomie spéciale pour la Papouasie, BP3OKP de Papouasie-Occidentale, Irène Manibouille, a déclaré que le vice-président Maruf Amin devait avoir un bureau à Tanah-Papua pendant environ un mois pour surveiller la mise en œuvre d'un certain nombre de programmes de développement. Irène, à Manokwari, mercredi, a expliqué que la vice-présidente en tant que présidente du comité directeur de Papouasie sur BP3OKP effectuera plus tard des visites de travail dans 6 provinces du pays de Papouasie, à savoir la Papouasie occidentale, la Papouasie du sud-ouest, la Papouasie centrale, la Papouasie des montagnes et la Papouasie du sud et la Papouasie. Il a déclaré que l'expansion des 4 nouvelles régions autonomes, DOB, a eu un impact sur les allocations budgétaires dans la province mère, mais que le gouvernement central est engagé à continuer à superviser le développement du pays de Papouasie. En témoignent les nombreuses visites de travail du président Joko Widodo et les plans de travail à venir du vice-président de l'Indonésie, Maruf Amin. Selon Irène, la politique adoptée concernant la taille de l'allocation budgétaire se préfère à la population de chaque district dans une province. La police nationale indonésienne, Polri, a envoyé du personnel humanitaire dans le cadre d'une opération humanitaire pour venir en aide aux victimes du tremblement de terre de magnitude 7,8 en Turquie. Chef de la division des relations publiques de la police, inspecteur général de la police, Dedi Prasetyo, une fois confirmé par Antara Jakarta, a expliqué jeudi son intention d'envoyer du personnel de Polri en Turquie pour être officiellement libéré sur la place Baharkam, siège de Polri jeudi après-midi, citant l'agence de presse Antara dans le cadre de l'opération humanitaire de Secours. Suite à tremblement de terre en Turquie, la police nationale a envoyé 3 équipes sous la coordination de l'agence de maintien de la sécurité Barkam, à savoir une équipe de santé composée de médecins et d'infirmières spécialisées. L'équipe médico-légale du service d'identification des victimes des catastrophes des VI de la police nationale, ainsi que l'équipe K9, cette division de chiens renifleurs. Toute l'équipe sera envoyée en Turquie pour renforcer l'équipe des opérations d'aide humanitaire du gouvernement indonésien sous la tutelle du ministère de coordination du développement humain et de la culture. L'ambassadeur indonésien en Turquie, Lalu Muhammad Iqbal, le paquet d'aide humanitaire de phase 1 du gouvernement indonésien a été distribué lundi. Le directeur général de la coopération asiane du ministère des Affaires étrangères, Siddhartho R. Suryodipuro, a déclaré que l'ASEAN est toujours à la croisée des chemins chacun fois que l'Indonésie occupe la présidence. Néanmoins, il a affirmé que l'Indonésie offre un séminaire intitulé « Études des priorités du leadership indonésien dans l'ASEAN ». Dans le domaine de la politique et de la sécurité qui a été organisé par l'Académie indonésienne des sciences AIP avec le Centre Habibi, mercredi 8 février 2023. Il a donné un exemple lorsque l'Indonésie est devenue présidente de l'ASEAN en 1976, alors qu'elle était marquée par l'incertitude des relations entre les grands pays, les superpuissances et la situation. Après la guerre du Vietnam, l'ASEAN avait produit un traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est. De plus, en 2003, lorsque l'Indonésie est devenue présidente pour la deuxième fois, l'ASEAN a décidé de renforcer l'unité et a accepté de former une communauté de l'ASEAN avec ses 3 piliers. Selon Siddhartho, lorsque l'Indonésie est revenue à la présidence cette année, l'ASEAN était confrontée à divers défis importants et fondamentaux, tels que les crises financières, énergétiques, alimentaires, le changement climatique, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale et les rivalités géopolitiques. Le président Joko Widodo a déclaré que le monde de la presse est actuellement dans un mauvais état à cause du nombre croissant de médias d'information numérique qui sacrifient la qualité du contenu et le journalisme authentique. Cela a été transmis par le président Joko Widodo dans ses remarques lors du sommet de commémoration de la Journée nationale de la presse 2023 à Deliserdan, nord de Sumatra, jeudi 9 février, comme en témoigne la diffusion en direct du secrétariat présidentiel YouTube de Jakarta. Selon le président, les principaux problèmes dans le monde de la presse ont maintenant changé. Le président a transmis « La presse comprend désormais tous les médias d'information pouvant apparaître sous forme numérique. » Chaque est libre de faire l'actualité. Le président Joko Widodo évalue le principal problème de la presse aujourd'hui et de faire des reportages responsables. Par conséquent, le président Joko Widodo espère que le projet de règlement présidentiel régissant les plateformes numériques et la société de presse sera bientôt résolu. À cette occasion, le président transmet Selamat Hari Pers National ou bien Joyeux la Journée de la Presse Nationale 2023 à tous les membres de la presse en Indonésie. Le président a également exprimé sa gratitude aux membres de la presse nationale pour leur contribution à la nation et à l'État depuis l'ère de la lutte pour l'indépendance jusqu'à maintenant. Bon, chers auditeurs, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'accueil diplomatique et pour le titre, Stockholm promeut le tourisme, la culture et le café indonésien à l'exposition Baltour 2023. L'ambassade d'Indonésie à Stockholm a participé à l'exposition internationale Baltour 2023 pour promouvoir le tourisme, la culture et le café indonésien. L'exposition Baltour, qui est la plus grande exposition touristique de la région baltique, à savoir l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, s'est tenue à nouveau au Centre international des expositions Kipsala, Riga, Lettonie, du 3 au 5 février 2023, après avoir été temporairement fermée pour la période 2021-2022 due à la pandémie de COVID-19. Baltour 2023 a présenté 253 agents de voyage, opérateurs de 32 pays en tant qu'exposants et a réuni environ 8000 visiteurs au cours d'un événement de 3 jours. L'ambassade d'Indonésie à Stockholm a coopéré avec l'opérateur de voyage Asian Paradise Resort pour fournir des informations et des forfaits touristiques en Indonésie, ainsi que des informations sur les dernières réglementations pour entrer en Indonésie, toutes deux liées au visa et à la réglementation COVID-19. L'ambassade d'Indonésie en Suède et simultanément en Lettonie, Kamapradipta Isnomo, a déclaré que cette exposition touristique donnerait la priorité à 5 destinations super prioritaires en Indonésie pour les consommateurs de Lettonie en particulier et de la région baltique en général. Le niveau des arrivées de touristes étrangers de Lettonie en Indonésie a été multiplié par 5 au cours de la période 2021-2022. La réouverture du tourisme international en Indonésie, la facilité de visa d'arrivée électronique et l'enthousiasme du public letton à visiter Bali soutiennent l'augmentation prévue des visites de touristes étrangers de ce pays. Lors de l'exposition, l'ambassade d'Indonésie à Stockholm a également promu la culture indonésienne en collaboration avec Bagus Vereningen, un groupe artistique communautaire indonésien à Malmö en Suède. Les visiteurs de l'exposition ont été enthousiasmés par les représentations de la danse Tando du nord de Sumatra et de la danse Enggang du Kalimantan oriental. Outre la culture, l'ambassade d'Indonésie à Stockholm a également promu le café indonésien au Baltour 2023 en collaboration avec Antore Factor Letong. Le point de vente indonésien a organisé une dégustation de café utilisant des variantes de café indonésien Eriga Geli Rising Roaster, qui est un produit de Crooked Bean Roastery utilisant des grains de café de Cigarrar Utang, Java Occidental. Chers auditeurs, c'était l'accueil diplomatique pour ce soir. Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 9 février 1946. L'Association des journalistes indonésiens est fondée. L'Association des journalistes indonésiens, PWI, est la première organisation des journalistes en Indonésie. PWI a été fondée le 9 février 1946 à Surakarta. PWI se compose des journalistes répartis dans toute l'Indonésie. La création de l'organisation de PWI a été le début de la lutte de l'Indonésie contre le colonialisme en Indonésie à travers les médias et l'écriture. En 1985, par décret présidentiel numéro 5 de 1985, l'anniversaire de l'Association des journalistes indonésiens est officiellement désigné comme Journée nationale de la presse. Passons maintenant à l'événement du 9 février, la journée de la cavalerie indonésienne. Le jour de la cavalerie est une journée nationale importante en commémoration du jour où la cavalerie a été formée en tant que force spéciale de véhicules blindés dans le cadre de l'armée nationale indonésienne, TNI-AD. L'unité de cavalerie de TNI-AD a été formée le 9 février 1950. La cavalerie est un terme qui désignait à l'origine les forces spéciales équestres. Mais au fil du temps, la cavalerie se bat à l'aide de véhicules blindés ou connus sous le nom de chars. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 9 février 1969, le vol d'essai du Boeing 747. Le Boeing 747, connu sous le nom de Jumbo Jet, le deuxième plus gros avion de passagers à fuselage large aujourd'hui, après l'avion A380, est devenu opérationnel fin octobre 2007. Le premier vol d'essai de Boeing 747 a eu lieu le 9 février 1969. C'est devenu l'histoire du monde de l'aviation car le Jumbo Jet est toujours actif aujourd'hui et est utilisé par plusieurs pays. C'est du retard, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir. Kamu tahu kita telah lama berjuang bersama. Suka duka tangis tawa menjadi bagian cerita kita. Suka duka tangis tawa menjadi bagian cerita kita.
C'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Cédric, bonsoir. Voici mon Indonésie et pour le titre, le ministère de l'Environnement et des Forêts lance un système de numérisation des agréments environnementaux. Le ministère de l'Environnement et des Forêts a lancé un système d'information sur les documents environnementaux, AMDALnet. L'objectif est d'accélérer le service d'approbation environnementale en Indonésie. La ministre de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurmaya Bakar, lors de lancement AMDALNET au bâtiment Mangalawa Navakti à Jakarta, mardi 7 février, a déclaré qu'avec la mise en place d'un système d'information sur les documents environnementaux, AMDALNET, la transformation numérique du processus d'approbation environnementale peut être réalisée. Elle a déclaré que cette percée en matière d'innovation était une révolution procédurale pour l'analyse d'impact environnemental AMDAL et est devenue une étape importante pour la transformation numérique du processus d'approbation environnementale dans son ensemble en Indonésie. Plusieurs pays ont des systèmes similaires comme les États-Unis et Corée du Sud. Selon Siti Nurbaya, AMDALNET fait partie d'un système d'information environnementale SILH plus large. Dans SILH, AMDALNET agit comme un parent ou un point d'ancrage qui intégrera divers autres systèmes d'information connexes, de sorte que le rôle d'AMDALNET est important et stratégique dans la construction du suivant SILH. En outre, AMDALNET est l'épine dorsale de la mise en œuvre du système d'évaluation de l'impact environnemental et de l'approbation environnementale, qui est l'une des exigences de base à respecter dans le processus de délivrance des autorisations d'exploitation. Il y a au moins 7 avantages qui peuvent être obtenus du système d'information sur les documents environnementaux AMDALNET. Ces avantages comprennent, entre autres, la facilitation du processus de gestion des documents environnementaux pour tous, la communauté du processus de préparation des documents environnementaux, l'accélération du processus d'évaluation et d'examen des documents environnementaux et fournir le traçage facile des documents, informations et des données importantes dans l'assistance au processus des activités d'évaluation et d'inspection des documents. Ces avantages aident les décideurs à déterminer la faisabilité ou l'inadmissibilité environnementale d'une entreprise ou d'une activité planifiée. AMDALNET facilite également la divulgation d'informations publiques ou la transparence dans le processus d'évaluation et d'examen des documents environnementaux responsables. Le directeur général de la planologie forestière pour la gestion de l'environnement du ministère de l'Environnement et des Forêts, Rwanda Agung Sugardiman, a déclaré que le système AMDALNET permet aux communautés et aux initiateurs, tant privés que gouvernementaux, d'être servis plus rapidement et plus précisément tout en maintenant une bonne protection de l'environnement. C'est le retour de l'Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
All night, all night, all night. This old school vibe's got me feeling.
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Changez de tard, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Chers auditeurs, lors de l'ouverture du Forum du tourisme de l'ASEAN ATF 2023 à Yogyakarta le 3 février, le ministre du Tourisme et de la Communicative Sandiaga Uno a porté une chemise en batik bleu foncé et marron. La chemise batik utilise le motif batik en pan typique de Yogyakarta. Non seulement le ministre Sandiaga Uno, mais aussi plusieurs délégués de l'ATF 2023 portaient des motifs de batik similaires tels que le secrétaire général adjoint de l'ASEAN, Satvinder Singh, la secrétaire de tourisme des Philippines, Christina Frasco, et la ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme de Laos, Suan Savan Vinyaket. Ses auditeurs, sur le compte de médias sociaux Instagram de Sandiaga Uno et le compte officiel du ministère du Tourisme et de l'Urban Créative, il est écrit que Pinus Batik n'est pas seulement un événement, mais qu'il a aussi de nombreuses significations et sa propre culture. Le pan lui-même signifie la paix et il y a une grande détermination dans la réalisation des objectifs. Le motif de tronc est également inclus dans le batik de pan, l'un des motifs de base du batik javanais, ce qui signifie qu'il est toujours en fleur. Chers auditeurs, le batik à motif de pan a été conçu pour élever et présenter la forêt de pan comme l'une des icônes touristiques de Bantul, Yogyakarta. Le processus de fabrication utilise canting cecek. Canting cecek est un type de canting à une pointe et est souvent utilisé pour faire des points et des petites lignes courbes. Le processus de coloration de batik pinus utilise les couleurs naturelles de la feuille d'indigo, de la cajou et du bois de tinggi. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À demain!
Coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Jangan minta jatuh cinta, sakit sebelumnya masih kurasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jangan terlalu kau dekat, jangan buat terikat. Coba kau rasakan lagi. Mungkin kau dapat perannya, tapi hanya sebagai bayang-bayangnya saja. Jangan minta jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Sakit sebelumnya masih kurasa. Beri waktu hingga aku mampu lupakan semua. Jatuh cinta, luka lama ku juga belum reda. Beri dulu aku waktu untuk sembuh sendirinya. Oh, bukan ku tak jatuh cinta, lelah ulang kesalahan yang sama. Ku ingin kita jalan. Tanpa tergesa.
Serge Littar, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Intitulée « Le ministère du tourisme et de l'économie créative et l'ambassade d'Indonésie à New Delhi participent au salon du tourisme » Échange de voyage et de tourisme en Asie du Sud 2023 en Inde. Le ministère du tourisme et de l'économie créative a collaboré avec l'ambassade d'Indonésie à New Delhi pour participer à Échange de voyage et de tourisme en Asie du Sud 2003. Qui a lieu du 9 au 11 février 2023 à India Expo Mart, Greater Noida, New Delhi, lundi. La participation de l'Indonésie au plus grand échange touristique entreprise ou B2B en Asie du Sud vise à maintenir l'existence du tourisme indonésien dans la région de l'Asie du Sud et à augmenter les visites touristiques de l'Inde vers l'Indonésie. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, M. Sandiaga Salahuddin Uno, a déclaré que le nombre de visites de touristes indiens après pandémie montrait à nouveau une tendance positive. C'est parce que l'Inde fait partie des 5 premiers pays avec le plus grand nombre de visites de touristes étrangers en Indonésie et la deuxième place à Bali après l'Australie au cours de la période 2022. Cette augmentation du nombre de touristes étrangers augmente le pourcentage d'hébergement, ce qui ouvre automatiquement plus d'opportunités d'affaires et de créer de nouveaux emplois et de qualité. Sur les offices de la marque Wonderful Indonesia, 43 acteurs sélectionnés de l'industrie du tourisme participeront à l'exposition touristique pour proposer divers forfaits touristiques attrayants. Se compose d'agents de voyage, d'hôtels et d'attractions touristiques. 5 destinations touristiques super prioritaires, à savoir Borobudur, Lalak Toba, Mandalika, Labuan Bajo et Likupang, seront présentés à l'exposition, notamment Bali, qui est une destination favorite des touristes indiens. Dans cette exposition, le ministère du Tourisme et de l'Économie créative a mis en avant 4 segments pour le marché indien, entre autres le mariage, la lune de miel, la famille et le miss, qui sont devenus les segments phares du marché indien. Le ministère du Tourisme et de l'Économie créative essaie également de s'adapter à d'autres marchés potentiels. Par conséquent, cette année, le pavillon indonésien présente également une zone de luxe pour les transactions d'échanges touristiques inter-entreprises ou B2B qui se concentrent sur le segment de luxe. Cette zone sera occupée par 7 acteurs de l'industrie composés d'hôtels, de centres de villégiature, de villas qui offrent des propriétés de luxe dotées d'expériences uniques et authentiques. Pendant ce temps, l'agent au marketing du ministère du Tourisme et de l'Économie créative, Nimade Ayu Martini, a ajouté que l'Agence de voyage et de tourisme Nasi Dusut 2023, c'est la première participation de Wonderful Indonesia à un échange de voyage à l'étranger en 2023. Cette mission de vente vise à mettre en relation les vendeurs indonésiens et les acheteurs indiens et à fournir les dernières informations sur le tourisme indonésien, y compris les politiques applicables. Surtout maintenant que Bali est devenu une priorité pour les touristes indiens dans les segments de la lune de miel et du mariage. Compte tenu de l'amélioration de l'économie indienne et des touristes entrants qui augmenteront de 3,9% en 2022. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt.
Terima kasih. first love, it's you.
Coba selalu mendekat, berikan semua perhatian, menunggu adakah tandaku untuk menjadi, yeah, untuk menjadi.
Voice of Indonesia.
Bila kita masih bersama, mengapa hatiku merasa sendiri? Coba tuk melangkah pergi, berharap sang rindu panggil cinta lagi. Namun sepertinya kau telah berpaling. Buat apa mencoba tuk bertahan bila kau tak cinta aku lagi? Sama jadi percuma. Buat apa berjanji untuk kembali bila hatimu tak di sini lagi? Ku lelah menanti sesuatu yang tak pasti. Asmara, sirna dan perlahan padamkan bara hati. Tapi apa arti berlari bila ku berharap kau datang kembali? Namun sepertinya kau telah berpaling.
Chers auditeurs, c'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie et de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde, avec moi Audrey. Ce soir, dans la rubrique magazine musical, je vais vous présenter une chanson de Titi Dwijayanti. Chers amis, débutant sa carrière en tant que chanteuse suppléante, Titi Dwijayanti, plus connue sous le nom de Titi DJ, a eu l'opportunité de sortir son premier album intitulé Bukan Hanya Satu Kali en 1983, mais il n'a pas eu de succès sur le marché. Même s'il y avait beaucoup d'interférences d'Indra Lesmana dans l'album de Titi, cependant, l'album Bintang Bintang est sorti en 1995, peu de temps après que Titi a épousé
Bucek Dap. Il n'y a plus d'interférence d'Interalsmana. C'est ce qui rend l'album de Titi différent des albums précédents. Les arrangeurs impliqués comprenaient Erwin Gutawa, Andy Ayunir et Adi Adrian. Bintang Bintang est devenu un pilier de cet album. Bon, chers auditeurs, voici Titi Dwijayanti va chanter une chanson intitulée Bintang Bintang. Bonne écoute! Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia.
de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.